Les Algériens arrivent les premiers. Majoritairement originaires de Kabylie, ils travaillent pour envoyer de l'argent à leur village. C'est une immigration ouvrière dite de va-et-vient. Après la guerre d'Algérie, ils retrouvent la Kabylie très appauvrie. Une grande partie d'entre eux décide alors de revenir avec leurs femmes et leurs enfants. C'est le début des regroupements familiaux. L'immigration espagnole se fait au même moment. Les femmes viennent avant les hommes. Elles sont recrutées pendant les vacances des Français pour remplacer les bonnes à tout faire, devenues introuvables en province. Puis viennent les hommes, paysans pour la plupart. Ils rejoignent un cousin ou un ami qui les aide à trouver un emploi. En 1975, Espagnols et Algériens sont les communautés les plus fortement implantées en région parisienne. L'immigration a permis aux ouvriers français de se hisser dans l'échelle sociale en abandonnant peu à peu les travaux pénibles et mal payés. Ces vagues successives d'immigration ont permis l'expansion économique des 30 glorieuses.
Disons que l'immigration algérienne et de manière générale l'immigration maghrébine se trouve confrontée à deux paradoxes. Le premier paradoxe est celui qu'on a souligné tout à l'heure, qui est celui de l'indépendance censée mettre fin à l'immigration et qui ne met pas fin à ce cycle migratoire. Et le deuxième paradoxe, c'est qu'au moment où les autorités françaises décident d'arrêter les flux et commencent même à penser qu'on peut faire repartir des centaines de milliers d'Algériens, en fait on s'aperçoit que les familles sont déjà là, que les enfants qui naissent sur le territoire français sont déjà là. Et finalement, les gens s'aperçoivent qu'ils sont de plus en plus intégrés, installés, et que toute perspective de retour est impossible, non seulement parce que le pays ne peut pas, mais parce qu'eux-mêmes, ils ont changé. Parce qu'il y a un sociologue algérien, Abdelmak Saïd, qui dit « on n'émigre pas impunément ». C'est-à-dire que les années que vous passez à l'étranger vous changent profondément. Vous changez les rapports entre le père et la mère, entre les parents et les enfants, changent vos habitudes de consommation, vos habitudes de loisirs. Et en même temps, il me semble qu'il y a une raison aussi très très profonde, qui est celle que pendant votre absence, le pays change lui aussi. C'est-à-dire qu'à l'occasion de ces vacances que vous passez au pays, vous vous rendez compte de plus en plus que le pays ne vous a pas attendu, qu'il a lui-même changé, et que vous êtes de plus en plus, en quelque sorte, étranger à ce pays que vous avez laissé.
Voilà, vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur RPP. Vous venez d'entendre Lionel Stoléru, j'ai fait la faute évidemment, dans un reportage de l'INA. On m'a annoncé que c'était lui, c'était pas lui. Bon, alors c'était un reportage de l'INA des années 70. Tu as reconnu, Marc, qui c'était ?
Driss Elgezami.
Voilà, donc c'était Driss Elgezami et pas du tout Lionel Stoléru. J'aurais pu éviter de faire une faute, donc c'est dommage. Et donc la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Marc Bernardo qu'on reçoit pour ce dossier. Marc Bernardo, donc, qui est sociologue et qui enseigne à l'université de Lille 1 et qui connaît très bien l'histoire de la Sonacotra et des foyers en général, et qui décrypte le logement contraint d'une manière plus générale. Donc là, on revient sur l'histoire de la Sonacotra, tout simplement parce que la Sonacotra, elle fête ses 50 ans. Elle a été créée en 1956 comme Société nationale de construction de logements pour les travailleurs algériens, donc Sonacotral. Et elle est devenue un petit peu plus tard la Sonacotra, donc on a enlevé le algérien. Est-ce qu'on peut revenir, pour commencer, sur cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle structure qui se crée? Quels antécédents est là, en fait, en France? Comment étaient accueillis les travailleurs étrangers ou bien les coloniaux, comme on disait? Et voilà, et pourquoi elle est créée?
Il faut se replacer dans le contexte de la crise du logement dans les années 50. La France s'est plutôt préoccupée de remettre en état son outil industriel et pas tellement de vérifier que les conditions de logement de la population étaient correctes. Il y a donc une grave crise du logement, une très grave crise du logement, à peu près équivalente à celle que la France connaît depuis quelques années, et dont on se souvient notamment à cause du célèbre appel de 1954 de l'abbé Pierre. Dans ce contexte particulier, la question du logement des travailleurs immigrés, notamment des Algériens à l'époque, passe au second plan et on considère que ce sont les entreprises employeuses de main-d'œuvre qui doivent se charger de loger ces populations. Alors elles les logent de manière très rudimentaire, très précaire, en les hébergeant à titre gratuit, en les logeant dans d'anciennes usines vaguement réaffectées à cette tâche. Mais de plus en plus se développent des bidonvilles, de l'habitat chez l'habitant, de l'habitat dans des garnis, des hôtels meublés, etc. Non seulement il y a ce contexte de la crise du logement des années 50, mais il y a un contexte tout à fait explosif, qui est le début de la guerre d'Algérie avec les premiers attentats dans les Aurès en 1954. Dans ce contexte particulier, la société française découvre d'une certaine manière la présence des Algériens et le ministère de l'Intérieur, qui jusqu'alors avait plutôt délégué cette responsabilité du logement des ouvriers au ministère du Travail, qui elle-même, qui lui-même déléguait aux employeurs de main-d'œuvre étrangère la question du logement, s'intéresse à cette question du logement des Algériens, ayant peur d'une création de ce qu'on pouvait appeler à l'époque une cinquième colonne indépendantiste en métropole, à proximité des zones industrielles, dans les grandes villes, Paris, Lyon et Marseille. Et donc, le ministère de l'Intérieur y voit une occasion de capter une nouvelle population, de capter de nouveaux crédits, de nouveaux moyens, et va susciter la création de la Sonacotral avec un préfet qui revient d'Algérie, qui s'appelle Jean Vaujour, qui travaille à l'époque avec Maurice Papon, qui est inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire, un IGAM, c'est comme ça qu'on disait, en Algérie, qui s'occupe de déplacer les populations en Algérie pour couper l'herbe sous le pied au FLN, enlever l'eau du bocal pour que le poisson ne puisse pas nager tranquillement. Et ce préfet, qui s'appelle Jean Vaujour, va constituer la Sonacotral, la mettre en place, trouver les financements, les soutiens institutionnels. On va trouver un personnage charismatique, on peut dire, à l'époque, et un ancien ministre de la Reconstruction qui s'appelle Eugène Claudius Petit, qui est un ancien combattant pendant la Seconde Guerre mondiale, un résistant, qui est un tribun catholique social à qui on va donner la présidence. Mais la direction générale va incomber à ce préfet, qui est un préfet politique, qui s'appelle Jean Vaujour, et qui va se charger, un, de résorber les bidonvilles progressivement, et deux, de trouver les terrains pour construire les foyers.
Alors justement, on va venir sur cette première étape. Qu'est-ce qu'on construit ? J'imagine, parce que nous, on a une vision très noire aujourd'hui de ce que sont les foyers de travailleurs migrants. Qu'est-ce qu'on construit à l'époque et dans quelle logique ils sont ? C'est totalement une logique de contrôle social ou est-ce qu'il y a une vraie volonté d'un logement décent pour...
Il y a trois logiques à l'œuvre. Il y a cette logique stratégique, si je puis dire, militaire, éviter que les bidonvilles ne servent de zone de repli pour le FLN. Je vous rappelle qu'après avoir été en Algérie, Papon devient préfet de police à Paris et les bidonvilles à Nanterre, aux Francs-Moisins, à Saint-Denis, aux alentours de Marseille aussi, près des entrepôts de pétrole, par exemple, inquiètent énormément. Et la Sonacotra a donc une mission inaugurale de servir de coin pour rentrer à l'intérieur des bidonvilles. La deuxième mission est une mission de récupération de terrain. Les grandes villes ont besoin de s'agrandir à l'époque. Je vous rappelle que le périph', que vous connaissez tous, a été construit en 1957 et Paris étouffe. Paris a besoin de s'étendre. On va créer les villes nouvelles et ces bidonvilles sont idéalement situées. À Saint-Denis, à Nanterre, je le disais, à Champigny-sur-Marne, à Ivry, etc. Et ces terrains sont des terrains qui valent beaucoup et sur lesquels sont installées des populations étrangères. Donc les préfectures, les municipalités, l'État va chercher à récupérer ces terrains et résorber un bidonville, c'est se retrouver avec un terrain libre de droit, facile à viabiliser une fois qu'on a expulsé les populations. Deuxième logique, récupérer des terrains. Troisième logique, une logique de solidarité nationale. Nous sommes dans un pays démocratique et un pays démocratique repose sur un pacte démocratique. On ne peut exercer ses droits politique que si on peut simultanément obtenir des droits économiques et sociaux. Laisser une population, fût-elle étrangère, encore que avant 62, ces Algériens sont de nationalité française, fût-elle étrangère ou considérée comme telle, dans une situation de dénuement, de fragilité sociale, sanitaire, etc., est une menace qui pèse sur le pacte démocratique. Et il y a bien entendu une option d'amélioration des conditions de vie. Et donc les premiers foyers qui sont construits dans cette logique-là, qui est une logique de contrôle social, voire de contrôle policier, parce qu'on va pouvoir surveiller qui rentre, comment il utilise son logement en bon père de famille. C'est comme ça qu'on dit encore dans les règlements intérieurs, hein, dans les baux d'immeubles. Donc on va pouvoir faire du contrôle social et policier, mais on va pouvoir aussi sélectionner les populations qui vont occuper ces foyers. Parce que tous les habitants des bidonvilles n'ont pas vocation, c'est comme ça qu'on parle dans les émissions télé, à occuper ces endroits. Quand vous réservez un bidonville, il y a un processus de sélection des populations qui s'opère. Ceux qu'on va conserver et placer dans des foyers qui seront certes périphériques, mais relativement bien desservis. Et puis des populations qui vont être repoussées plus loin, à la périphérie de la ville, à la périphérie du département, et qui n'ont pas, elles, vocation à être prises en charge par les pouvoirs publics immédiatement.
Mais justement, ces foyers, ils sont construits dans des lieux assez spécifiques, c'est-à-dire ils sont, d'ailleurs dans leur dénomination même, ils ont vocation à être des foyers de travailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très très forte qui est établie entre l'immigré ou bien le français algérien à l'époque et le travail en métropole.
Les foyers qui vont être construits en France vont être construits aussi à proximité des zones industrielles. Le croissant nord et est de la France, la vallée de la Maurienne du côté de Lyon et de Grenoble, la région parisienne, la région de l'étang de Berre autour de Marseille. Et encore actuellement, la carte d'implantation des foyers rend compte de cette première implantation, de cette première vague d'implantation de la fin des années 50 et du début des années 60. Il y a près de 50 foyers à Paris, il y en a bien une vingtaine ou une trentaine à Marseille, c'est à peu près équivalent à Lyon. Hein. Les grandes banlieues aussi, hein. Mais aussi des zones qui sont dès lors, dès ce moment-là, des zones en crise industrielle. On construit des foyers à Thionville, des foyers à Longwy. C'est des endroits dans lesquels on va loger des mineurs, des métallurgistes issus de l'immigration, des Marocains, des Algériens, dans des zones qui sont déjà frappées par une menace de désindustrialisation et qui vont être touchées de plein fouet très, très, très rapidement, avant même la crise de 73, dès le milieu des années 60, par des vagues de licenciements et des difficultés pour la Sonacotra à occuper ces disponibilités, ces capacités hôtelières que représentent les foyers. Donc il y a un lien avec le travail. C'est une manière, pour revenir sur la question de la solidarité, de découpler relativement efficacement le lien entre travail et logement, parce que quand vous êtes logé à titre gratuit par votre employeur, si vous perdez votre emploi, vous perdez votre logement. À partir du moment où vous êtes logé, quand bien même ne serait-ce qu'avec un contrat de résidence qui n'est pas vraiment un contrat de location, vous avez quand même un décalage entre l'obtention du travail et l'obtention du logement. Donc c'est une forme de progrès, mais un progrès extrêmement limité.
Alors juste aujourd'hui, on sait que dans les foyers, il y a un très grand nombre de célibataires qui sont là depuis 30 ans, parfois 35, 40 ans. Je cite les exemples les plus extrêmes. Mais est-ce que dès le départ, ces foyers sont pensés dans ce type de durée-là ? C'est-à-dire que toute sa vie de travailleur, il sera logé dans un foyer de ce type-là ? Ou est-ce qu'on pense le logement de manière plus temporaire et c'est l'histoire qui en fait autre chose ?
Dès l'origine, le foyer est pensé pour être provisoire. Travailleur provisoire, logement temporaire. Ou travailleur temporaire, logement provisoire, vous le prenez comme vous voulez. L'idée est que ces Algériens, ces Marocains, ces Tunisiens, ces Sénégalais, ces Maliens, ces Mauritaniens, vous prenez les populations migrantes que vous voulez, n'ont pas à rester en France au-delà de leur utilité salariale et professionnelle. Donc, à la fin de leur carrière de travail, à la fin de l'utilité sociale qu'ils représentent, ils doivent retourner dans leur pays d'origine. Et les foyers sont pensés ainsi. C'est des foyers qui ne sont que cloisonnés. Les chambres sont des toutes petites chambres. Les premiers foyers, on peut en visiter encore. Enfin, les visiter, c'est un grand mot. Mais on peut en voir encore qui ont des chambres de 4 mètres carrés qui sont en fait des petites unités de 9 mètres qui sont cloisonnées par des cloisons en bois, un peu comme dans des vieux pensionnats, etc. Les hommes y trouvent le minimum avec une cuisine collective, des sanitaires en commun, et puis ces petites chambres qui sont en fait un logement familial d'après-guerre cloisonné pour accueillir des travailleurs célibataires qui reconstituent une sorte de petite famille. Et c'est dans l'esprit de la Sonacotra et d'autres gestionnaires de foyers très important de donner le sentiment aux travailleurs maghrébins, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, aux travailleurs algériens, de leur donner le sentiment d'avoir reconstitué une cellule familiale. Bon. Dans les faits, n'importe quelle population qui s'installe dans un logement ne prévoit pas de date de sortie. On ne s'intéresse pas de manière provisoire. Une fois qu'on occupe un logement, on l'occupe et les péripéties de la vie font qu'on va associer sa mobilité résidentielle à une autre mobilité, mobilité de travail. C'est le cas pour ces travailleurs. Mobilité ou transformation de la cellule familiale, le fait de se marier par exemple, va changer le rapport au logement et donc on va changer de logement. Le problème est que ces populations sont placées de manière volontariste par l'État et les gestionnaires de foyers dans cette situation de célibat forcé. Pendant très longtemps, on va essayer avec ces foyers de retarder la venue en France des familles. Et on se dit qu'en retardant par le logement la venue de la compagne, de l'épouse, de la femme qui va rejoindre son compagnon, on va empêcher l'installation sur le territoire. Dans les faits, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le phénomène, pas simplement dans les années 60, mais sur l'ensemble de la période, c'est que les plus faibles, les plus démunis, les populations les plus fragiles vont se sédentariser dans les portions les plus dévalorisées, dépréciées de ce parc de logements dérogatoires, alors que les autres populations, celles qui ont la capacité à créer une famille, à retourner au pays, un bon salaire, des conditions de vie relativement correctes, vont réussir à sortir du foyer. On va capter, saisir sur place les populations les plus fragiles et laisser partir les autres populations qui, elles, vont s'installer sur le territoire pour une partie conséquente d'entre elles.
J'aurais peut-être une petite question. Dans l'élaboration et la construction de ces foyers, quel rôle a eu le patronat ? Est-ce qu'il a intervenu ? Est-ce qu'il a eu des demandes spécifiques concernant ces foyers ?
Traditionnellement, dans l'histoire de la révolution capitaliste, le patronat s'intéresse particulièrement aux questions de logement, au moins dans le premier âge du capitalisme, parce que fixer des ouvriers dans le logement, c'est permettre de fixer les ouvriers dans le travail. Et c'est une des grandes préoccupations du patronat aux origines du capitalisme. Ça s'est bien transformé depuis. Hein. Mais le début du XIXe siècle, le patronat continue à s'intéresser au logement, et tout particulièrement au logement des migrants africains, malgaches, cochins chinois, maghrébins, peu importe l'origine, parce que l'idée est d'empêcher à Schneider, à Michelin, ailleurs, chez les houillères, dans les houillères du Nord ou des Cévennes, d'empêcher tout contact prolongé entre les populations migrantes et le reste de la population. Le logement est le deuxième moyen avec le travail. On va confiner sur des zones professionnelles particulières ces populations, on va les confiner aussi dans la ville. Le foyer participe de ces moyens, on appelait ça la caserne. Abdelmalek Sayad a écrit des textes magnifiques sur cette question. Et on va confier à des populations de gestionnaires particuliers la gestion de ces populations africaines ou malgaches, de manière à ce qu'elles soient tenues à l'écart de la ville, à l'écart du reste du monde de l'entreprise, à l'écart des femmes aussi. Parce qu'il y a aussi cette obsession, ce fantasme raciologique, ce fantasme du risque que représentent ces populations d'hommes, jeunes, seuls, étrangers, musulmans, imaginez autant de qualités pour un entrepreneur, c'est préoccupant. Et donc le logement est vraiment un moyen de contrôler ces populations. Mais le patronat commence dès la fin des années 50 à essayer de se débarrasser de ces populations et d'en confier une partie de la gestion aux institutions publiques, par exemple la Sonacotra. Et donc le patronat voit d'un très bon œil la constitution de cette entreprise spécialisée. avec une attitude très variable selon les endroits. Le patronat, c'est une appellation qui homogénise des structures très différentes. Hein. Mais dans l'ensemble, le patronat voit d'un assez bon œil l'arrivée de ce partenaire, un peu moins dans le monde HLM, mais dans le monde du patronat, c'est quand même un accueil très, très favorable.
Mais justement, est-ce qu'il y a d'autres institutions du même type qui sont créées en fait à la même époque que la Sonacotra, ou est-ce que la Sonacotra a au départ, ou la Sonacotral a au départ un monopole sur le logement des immigrés?
Non, de monopole il n'est pas question à l'époque. Il est question de loger au départ des Algériens. Les autres populations, je pense aux Sénégalais, aux Maliens, aux Mauritaniens dont j'ai parlé tout à l'heure, sont plutôt prises en charge par des associations de type philanthropique, le mot est un peu passé de mode, dans lequel on retrouve un ancien colonel à la retraite, le patron ou la femme du patron de l'entreprise la plus employeuse de main-d'œuvre étrangère, qui vont dans des représentations de solidarité un peu paternaliste, voire maternaliste, décider de constituer avec des fonds privés et des aides publiques, le ministère du Travail notamment, de récupérer telle vieille poudrerie à l'abandon pour y mettre un dortoir pour travailleurs maliens, par exemple. Ce point de départ va donner lieu à toute une série d'associations locales qui existent pour une partie d'entre elles, mais qui sont en voie de concentration et de reprise par la Sonacotra ces dernières années. Je pense à l'AMLI à Metz, l'association pour le mieux-être et le logement des immigrés. Hein, c'est très poétique, mais quand vous visitez un foyer de l'AMLI, vous vous apercevez que le mieux-être a un étiage très, très bas, en l'occurrence. Mais vous pouvez avoir d'autres associations qui ont peu ou prou disparu ces dernières années. Je pense à une grosse association de logement de travailleurs africains qui s'appelle la Sundiata, qui s'appelait la Sundiata, qui a été complètement éreintée par une gestion calamiteuse, par des grèves de paiement des usagers des foyers, et qui a progressivement disparu, et dont la plupart des foyers sont repris par la Sonacotra, qui est un gage pour les pouvoirs publics, puisque c'est une société d'économie mixte, un gage pour les pouvoirs publics, pour la préfecture, d'une gestion extrêmement droite de ces lieux d'habitat.
Yeah.
du front sur FPP, donc on est toujours avec Marc Bernardo, en fait dignement les 50 ans de la Sonacotra, en revenant un petit peu sur son histoire pour essayer de comprendre pourquoi la Sonacotra a absolument voulu changer son nom qu'elle jugeait trop stigmatisant. Donc on va aborder maintenant la question que tu as commencé à évoquer juste avant, en fait, de la gestion des foyers. Comment est-ce que ces foyers étaient gérés concrètement et par qui ?
Cette question de la gestion occupe beaucoup les premières années de la Sonacotra. Plusieurs solutions se présentent. Une des solutions qui est évoquée au début de l'existence de la Sonacotra, c'est de confier, comme d'autres propriétaires HLM, propriétaires institutionnels, la gestion de ces lieux à des associations. Par exemple, la FRP, l'AMLI, ces associations dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, Claudius Petit, comme Vaujours, ont une idée derrière la tête qui est de contrôler ces foyers. Pas simplement de construire des foyers et puis d'en passer la gestion à quelqu'un d'autre, mais vraiment l'idée d'avoir un contrôle sur les espaces et sur les populations. Et la meilleure solution qui se présente pour eux, c'est de confier cette gestion à des retraités de l'armée qui ont un énorme avantage, c'est qu'ils sont payés par une autre institution, en l'occurrence la retraite militaire. Ils ont comme caractéristique d'être censés connaître les populations logées dans les foyers. Parce que ces militaires ont fait l'armée dans les colonies, par exemple, et sont censés, la réalité est plus mitigée, connaître l'arabe, parler des dialectes de la vallée du fleuve Sénégal, et connaître surtout l'esprit de ces populations. On est dans un monde qui est encore très marqué par l'orientalisme, par la représentation impériale et coloniale, c'est-à-dire l'Africain est comme ceci, le Maghrébin est comme cela, et il faut des hommes à poigne, des hommes qui connaissent ces indigènes pour pouvoir les gérer convenablement. Et donc on va confier cette gestion à des retraités de l'armée, des retraités de la police quelquefois, des gens qui ont géré des populations difficiles, quelquefois des camps d'internement dans les périodes précédentes, à qui on peut confier la gestion d'un immeuble avec 250 célibataires qui partent tôt le matin, qui rentrent tard le soir. Il faut les empêcher de recevoir des femmes, il faut les empêcher de faire de la politique et de gérer cet espace de manière relativement hygiénique. C'est une des marques de fabrique de la Sonacotra, c'est l'hygiénisme, ce courant du 19e siècle, mais qui là trouve une traduction dans les cadres professionnels policiers et militaires de la Sonacotra, qui sont l'idée que tout ça doit filer droit, tout ça doit être propre, géré convenablement, etc. etc. Et donc, on va se constituer une catégorie de personnel à la Sonacotra qui sont ces directeurs de foyer. Ils sont en fait, malgré toutes ces représentations, livrés à eux-mêmes et se retrouvent avec des consignes qui viennent de Paris, mais avec des problématiques. Imaginez ce que ça veut dire, 250 jeunes Sénégalais qui vivent dans un foyer de manière relativement confinée, avec des problèmes de transport, des problèmes de conflit, des problèmes très, très divers, et avec surtout une représentation strictement coloniale et coercitive. Nous sommes dans les années 60, dans des zones très reculées de la société française, avec des contacts avec l'entreprise dans laquelle travaillent ces Sénégalais ou ces Algériens. Il y a donc là une culture locale qui va se développer. Je parlais tout à l'heure d'impérialisme et colonialisme. Dans les années 70, on dira que c'est une manière raciste de gérer. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est la société, c'est l'ordre social qui est raciste à l'époque. Il l'est peut-être encore et probablement encore aujourd'hui. À l'époque, c'est un ordre social qui est raciste et ses gestionnaires le sont peut-être un tout petit peu plus, manifestent un tout petit peu plus clairement ce racisme colonial vis-à-vis de ces populations.
Et donc concrètement, quels sont les droits en fait des travailleurs qui vivent dans ces foyers ? Comment est-ce qu'ils vivent dans ces foyers ?
C'est très variable d'un endroit à l'autre. C'est très variable en fonction du statut professionnel. Si vous êtes employé dans une grande entreprise, automobile, les houillères dont je parlais tout à l'heure, que vous avez un statut, vous êtes probablement, si vous êtes algérien ou sénégalais, confiné, réservé dans une partie de l'usine. Vous allez être, quelles que soient vos compétences, ouvrier spécialisé. Vous ne progresserez pas. Votre salaire est le même que les Français, mais les Français ne travaillent pas à ce niveau-là ou n'y restent que quelques jours. Vous allez rester toute votre carrière ouvrier spécialisé. Vous allez être géré de manière spécifique dans l'usine. C'est la même chose dans le foyer, mais vous avez un statut. Vous avez une durée d'emploi qui vous permet d'économiser, de peu dépenser en France et d'envoyer, c'est le rêve du migrant traditionnel, envoyer de l'argent au pays pour faire vivre la famille, retourner là-bas quand vous êtes jeune pour trouver une épouse, fonder une famille et ensuite l'entretenir depuis la France, depuis la métropole, en envoyant une partie importante de votre salaire au pays. Si vous êtes au contraire un travailleur du bâtiment, un ouvrier du bâtiment, vous allez être promené, baladé au gré des chantiers. Vous allez travailler ici, puis travailler là, et puis vous serez débauché. C'est la règle à l'époque et c'est encore la règle maintenant. Premier embauché, premier débauché. Hein, pour ces ouvriers qui sont polyexposés aux maladies professionnelles, aux accidents du travail, qui ont des salaires bas, des conditions d'emploi qui sont beaucoup plus précaires, c'est-à-dire vous n'allez pas toujours avoir les papiers, vous allez quelquefois travailler au noir, vous allez quelquefois aussi être blessé ou accidenté sans vous faire soigner convenablement. Et cette accumulation de précarité, de difficultés, d'exposition spécifique fait de cette population une population beaucoup plus fragile. Elle est toujours renvoyée en situation de ce qu'on appelle le primo-arrivant. C'est comme si le type, même s'il travaille depuis 10 ans ou 15 ans ou 20 ans en France, était en train de descendre du bateau, un nouvel étranger. Il est toujours, et le statut précaire de logement y contribue grandement, est toujours renvoyé à une situation de l'étranger qui vient d'arriver. Et cette situation est vraiment préoccupante.
À Garges-lès-Gonesse, près de Paris, une centaine de travailleurs immigrés expulsés par la Sonacotra campent depuis 3 mois au pied de leur ancien logement. Ils constituent le noyau dur d'une grève commencée il y a 4 ans et qui a touché presque tous les foyers. Aujourd'hui encore, 10 000 résidents refusent de payer leur loyer.
Si on calcule par rapport aux HLM, qui ont eux et c'est des locataires, pour un F5 qui fait 100 mètres carrés, ils payent 1 300 francs. Tandis que nous, pour 6 mètres carrés par rapport aux HLM, on paye à peu près 4 fois plus cher. Alors nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir un statut de locataire qui nous permet, bien sûr, de savoir qu'est-ce qu'on paye. C'est-à-dire le prix du local et puis les charges. Alors à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on paye.
Nous, on estime qu'on n'est pas des prisonniers dans ces foyers. C'est ce que la Sonacotra appelle les palaces. La Sonacotra dit, dans sa publicité, qu'il a monté, qu'il a construit des foyers aux travailleurs immigrés qui étaient dans les bidonvilles, qu'aujourd'hui ils ne veulent pas payer les loyers. C'est le contraire, c'est complètement le contraire à ce que nous on demande. Nous on demande de la liberté dans ces foyers. Je crois qu'on ne réclame pas de dominer la France ou de remplacer le président de la République.
Autrement, vous êtes d'accord sur le principe de payer un loyer?
Ah, automatiquement! Mais j'y suis en France depuis 1953. J'ai toujours payé un loyer. J'habite dans le foyer Sonacotra depuis octobre 1973, simplement. Alors, je ne dis pas que je ne paye pas de loyer. J'y suis d'accord à payer un loyer, mais juste. Un loyer juste.
Alors voilà, ça c'était une archive sonore de 1979 à l'occasion de la grève des loyers à la Sonacotra de Garges-lès-Gonesse. Cette petite archive pour parler de ce qui va beaucoup agiter les foyers Sonacotra, en particulier dans les années 80, c'est-à-dire les mobilisations des résidents avec comme arme la grève des loyers, et qui, alors on parlera après des connexions qu'il y aura pu y avoir à ce moment-là avec les militants politiques, mais qu'est-ce qui déclenche, pour commencer, qu'est-ce qui déclenche ces mouvements de grève de loyer?
Alors première chose, on s'imagine souvent que cette grève des Sonacotras, puisque finalement on a fini par appeler du nom de la société ces populations qui occupaient les foyers, cette grève des Sonacotras débute bien avant les années 70. On la date en général de la période 1975-1980. En fait, les premières mobilisations dans les foyers interviennent dès le courant des années 60, et en particulier dans les foyers africains, qui ne sont pas de la Sonacotra et qui sont installés en Picardie. Et la première démarche de dépôt de plainte pour comportement raciste, prix illégaux, etc., etc., intervient dans un foyer AFTAM de Compiègne en 1968. Et les avocats qui sont contactés par ces Sénégalais sont des avocats qui sont déjà des militants. Arlette Grunstein et Claude Bourget, qui sont les futurs fondateurs du GISTI, du groupe d'intervention et de soutien aux travailleurs immigrés, qui vont avec ces Sénégalais, théoriser les méthodes de lutte juridiques dont disposent les résidents de foyer pour contester l'ordre social raciste dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'époque le système des foyers, c'est comme ça qu'on le appelle, le système d'encadrement dans les foyers. Cette première plainte des années 60 ne va pas aboutir pour des raisons diverses et variées, mais les mêmes avocats, les mêmes militants vont utiliser cette réflexion de la fin des années 60 au début des années 70, en 73, notamment à Saint-Denis, dans les foyers beaucoup plus mélangés, beaucoup plus mixtes du point de vue de l'origine des usagers, notamment à Saint-Denis, au foyer Siqueiros, qui existe toujours, qui sont les foyers issus de la résorption du grand bidonville des Framboisins. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs choses. Il y a une période dans laquelle la crise industrielle commence à toucher la société française, la société européenne. En règle générale, les mêmes problèmes se posent vis-à-vis des Turcs en Allemagne à la même période. Donc un rapport au travail qui commence à se modifier. Aussi, une génération de travailleurs qui a changé. Il y a des jeunes qui ne sont plus dans les luttes coloniales, mais qui sont plutôt dans les luttes urbaines et dans les luttes industrielles. Donc on a à la fois des luttes urbaines, Colette Pétonnet en a beaucoup parlé, Michel Marié, toute une série de chercheurs des années 60 et 70, vont s'apercevoir que dans les villes nouvelles, dans les cités HLM, dans les cités de transit, les femmes, les hommes, les enfants se mobilisent contre les conditions de logement, contre les conditions de vie dans ces immeubles, dans ces villes qui sont situées en grande périphérie et qui sont quasiment des assignations en résidence. En même temps, les grèves se développent dans les usines. Penaroya, la Semafer, les grandes grèves des années 70 commencent à ce moment-là, avec des hommes qui sont non seulement des salariés de ces usines, de ces entreprises métallurgiques, houillères, automobiles, de transformation et des biens intermédiaires, de toutes les grandes entreprises françaises, par exemple Christophe, ici à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, hein, qui emploie surtout des Algériens, qui vont se mettre en grève dans les usines, mais qui sont aussi des usagers des foyers de travailleurs, et qui vont simultanément développer des conflits à l'intérieur de leur lieu d'habitation. Ils vont développer des conflits sur trois axes. La manière dont les prix sont fixés. Et ils vont, avec le soutien de toute une série de militants, qui sont aussi des militants, qui sont aussi des architectes, qui sont aussi des urbanistes, qui sont aussi des juristes, qui sont aussi des gens investis dans le monde de la presse, par exemple, qui vont réussir à considérer que la manière dont sont fixés les prix, le prix des résidences, le prix des loyers, ce qu'on appelait à l'époque la redevance, sont fixés de manière illégale. Premier axe du combat. Deuxième axe du combat, sur les conditions de vie et d'occupation de ces foyers. Les résidents vont contester la manière dont ces gérants racistes, comme on les appelait à l'époque, gèrent les foyers, avec un chien policier, avec des expulsions manu militari à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, avec des interdictions multiples, avec un droit d'occupation qui est extrêmement précaire, l'interdiction de recevoir des visites,
a fortiori des visites féminines, sauf celles qui sont organisées par des réseaux de prostitution qui permettent l'abattage à l'intérieur des foyers, enfin des conditions qui sont un peu difficiles. Et donc cet axe sur les conditions de vie va être très important dans une société qui considère que les conditions de vie sont une conquête pour tous. Troisième axe, c'est le fonctionnement même de la Sonacotra qui va être mis en cause, en considérant que la Sonacotra et tout le système de gestion spécialisée de l'immigration en France, notamment le Fonds d'action sociale, notamment la Direction de la population et des migrations, notamment toute une série d'institutions qui gèrent ces institutions spécialisées, est illégale et discriminatoire.
Mais justement, il y a la création à ce moment-là, par rapport à ces luttes isolées qui existaient avant 1975, c'est-à-dire des grèves de loyers qui se pratiquaient ponctuellement sur tel ou tel foyer. La nouveauté dans les années 1975-80, c'est la coordination de l'ensemble de ces luttes, avec notamment la création d'un comité de coordination. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle forme de lutte ils vont adopter qui sera suffisamment forte pour durer 5 ans?
C'est le tour de force de ces résidents qui sont isolés, qui ont un niveau de formation scolaire assez bas, qui ont des conditions de vie qui sont difficiles, qui sont aussi installés en périphérie, loin, sans transport en commun, avec des difficultés pour accéder à des réseaux, à des soutiens, etc. Ils vont réussir à deux niveaux. D'abord, en créant un comité de coordination, d'abord en Seine-Saint-Denis, et puis ensuite ce comité va essaimer, qui n'est pas directement lié aux syndicats et aux partis ouvriers en France, qui, tout au long des années 60, sans remonter plus loin, ont une position pour le moins ambiguë vis-à-vis des migrants. Alors, on défend les intérêts du travailleur migrant, mais le migrant en lui-même est considéré par ces syndicats, notamment la CFDT et la CGT, comme étant d'abord des étrangers. Et donc, ils sont intéressants comme travailleurs, comme étrangers, ils sont plus préoccupants, notamment parce que ces mouvements ont des courants xénophobes en leur sein qui posent toute une série de problèmes à leurs dirigeants. Et donc la coordination va chercher à se détacher progressivement du Parti communiste français et de la CGT pour les deux principaux. C'est le premier tour de force, la capacité à créer un comité de coordination des foyers en lutte qui va regrouper jusqu'à 90 foyers essaimés sur tout l'ensemble du territoire métropolitain. Ça, c'est le premier tour de force, parce qu'il y a plusieurs dizaines de nationalités, donc de langues, des types d'habitats variés, dans des foyers de taille très différente, dans des endroits très différents. Les gens ne se connaissent pas et ils réussissent avant la société du réseau, avant le téléphone pour tous et Internet, etc., à se connecter, à se mettre en réseau pour faire peur aux institutions. Premier tour de force. Deuxième tour de force, la capacité à trouver des réseaux de soutien à l'extérieur des foyers. Parce que un des gros problèmes de ces militants, c'est qu'ils sont très isolés. Et la capacité à trouver des intellectuels qui les soutiennent, des hommes politiques, Mitterrand va faire une grande partie de la campagne des législatives de 78 autour de la question des migrants. Il va aller à Chilly-Mazarin, il va aller à Garges-lès-Gonesse, il va soutenir ce mouvement. Et Mitterrand, à l'époque, c'est déjà un homme politique de premier plan. C'est le cas pour Jean-Paul Sartre, pour toute une série d'intellectuels qui vont soutenir le mouvement. Cette capacité à faire que la presse et les intellectuels vont soutenir le mouvement, ne serait-ce qu'en en parlant, va modifier complètement les données du problème.
Et ça se passe comment, justement, enfin, le lien, la connexion?
Une partie des connexions se font peut-être par des groupuscules Mao, qui, c'est l'expression de la police à l'époque, travaillent les foyers de travailleurs depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que la question de l'immigration commence à devenir une question politique centrale. Auparavant, dans les années 60, l'immigration n'est pas une problématique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des migrants, qu'il n'y a pas des travailleurs migrants, qu'il n'y a pas des problèmes divers qui les touchent, qu'il n'y a pas de xénophobie, de racisme, mais il n'y a pas de discours politique là-dessus, il n'y a pas de criminalisation, comme depuis une vingtaine d'années. Mais à partir des années 75-78, la question des migrants commence à être posée, ne serait-ce que parce qu'ils font la grève dans les usines, parce qu'ils font la grève dans les foyers, parce qu'ils défilent à Paris, ils occupent la Bourse du Travail, ils font des grèves de la faim, etc. etc. Et puis, surtout, ils mettent la Sonacotra, sur le devant de la scène parce qu'ils la mettent en situation de danger économique, de danger de survie. Ils arrêtent de payer les loyers massivement, de manière durable, et enlèvent à la Sonacotra une des ressources financières principales, avec les subventions bien entendu, mais une des ressources financières décisives pour son fonctionnement.
Alors peut-être que pour avancer un petit peu sur ce sujet, on peut parler du fonctionnement des foyers et au fur et à mesure que ça va évoluer de leur rôle. On a beaucoup parlé de la fonction intégratrice des foyers, de ces formes d'auto-contrôle social. Comment vont évoluer ces foyers et qu'est-ce qui s'y passe dans les années 80, 90 et presque jusqu'à aujourd'hui?
Alors, la transition est assez facile à trouver entre les grèves et la fonction intégratrice. La première chose qui va se passer, c'est que cette lutte très importante, la plus importante lutte d'étrangers en France au XXe siècle, il n'y a pas d'équivalent, va déboucher sur une victoire quasiment totale des revendications immigrées. L'obtention d'un statut de résidence avec des règlements intérieurs découplés du droit d'occupation, l'obtention d'une fixation officielle des prix de manière régulière, qui est une conquête juridique décisive, mais aussi l'obtention l'allocation logement pour ces travailleurs immigrés, qui va changer totalement le rapport à ces foyers. Alors le problème, et c'est souvent le cas pour les luttes immigrées, pour les luttes d'étrangers, c'est que ce n'est pas ceux qui auront le plus agi pour ces conquêtes qui vont en bénéficier. Parce que la première chose qui va les toucher va être une campagne d'expulsion et de saisie arrêt sur salaire qui vont épuiser complètement la lutte. Beaucoup vont être expulsés non seulement des foyers mais aussi du territoire. Et au début des années 80, ces populations qui occupent les foyers se retrouvent démunies, se retrouvent expulsées. Et c'est une autre population qui, finalement, va bénéficier de ces avancées sociales et résidentielles. La première de ces populations, qui commence dès la fin des années 60 à arriver dans les foyers, c'est la population de ce qu'on appelle à l'époque les nouveaux pauvres. La nouvelle pauvreté, qui sont des ouvriers licenciés, qui sont des jeunes sans travail, qui se retrouvent progressivement mis au banc de la société et qui vont trouver, au fur et à mesure que cette nouvelle pauvreté va être solvabilisée par des aides particulières, qui vont trouver dans les foyers des espaces vacants. Pourquoi ? Parce que à Thionville, on commence à licencier dès la fin des années 60, et si on licencie à l'usine, on perd des places dans le foyer. Et les gestionnaires de foyers vont aller chercher ces nouvelles clientèles, ces nouveaux publics, pour les mettre à la place des migrants. Et ces nouvelles populations sont essentiellement des populations françaises qui vont progressivement, pour les mêmes raisons, s'installer dans les foyers. Parce que quand vous rentrez dans un foyer et que vous êtes solvabilisé par une aide, quelle qu'elle soit, vous vous sédentarisez sur place et vous vous installez dans ce provisoire qui peut durer pour les étrangers comme pour les nationaux.
Alors, peut-être juste, et le lien n'est pas évident, mais sur je voulais parler un petit peu de l'état des foyers actuellement. C'est quelque chose d'assez marquant, quel que soit qu'il soit Sonacotra ou Aftam ou Sundiata, dans l'ensemble, en tout cas sur Paris et ceux que j'ai eu l'occasion de voir, sont dans un état de dégradation terrible. On voit bien que ça n'a pas été entretenu, que les foyers sont vraiment excessivement dégradés. Qu'est-ce qui explique qu'on en soit quasiment partout dans cette situation, quasiment d'indignité d'une telle offre de logement?
Il y a à peu près 800 foyers de travailleurs migrants en France. Et tous ne sont pas dans une situation de délabrement ou d'insalubrité importante. Certains, oui, pour des raisons qui sont multiples. Il y a d'abord une raison d'origine. Ils ont été vite construits avec des matériaux de mauvaise qualité dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour accueillir des bâtiments. des bâtiments qui ont été construits pour des travailleurs provisoires, je vous le rappelle. Donc on ne prenait pas de soins particuliers dans la conception des bâtiments. Ensuite, ces bâtiments ont été utilisés de manière intensive. En région parisienne, les bâtiments ont toujours été pleins, voire surpeuplés, avec très très peu de moyens d'entretien. De moins en moins de moyens d'entretien. Au fur et à mesure que ces foyers ont été payés, ont été financés par les aides publiques, par des subventions, par les redevances des usagers, les gestionnaires et les propriétaires se sont désintéressés de ces bâtiments. Pourquoi ? Parce qu'un bâtiment payé est un bâtiment qui rapporte. Et on ne va pas investir sur un bâtiment qui rapporte. C'est une mauvaise règle, c'est une mauvaise attitude de gestionnaire d'investir sur un bâtiment qui rapporte. On va investir sur d'autres segments, sur d'autres secteurs qui sont susceptibles de rapporter plus tard. Et donc les subventions qui sont destinées depuis une quarantaine d'années à réhabiliter les foyers, très souvent, pour des raisons diverses, vont être utilisées pour construire pour d'autres publics, pour réhabiliter d'autres bâtiments. Parce que c'est une des bizarreries du monde des foyers, à Paris en particulier. La plupart des propriétaires des murs des foyers sont des institutionnels, des ministères, des grands du monde HLM. Et les subventions, ils les appliquent pour d'autres projets immobiliers parce qu'il n'y a pas de comptabilité analytique pour la gestion. Donc on ne sait pas où passent ces subventions. Et c'est une des traditions de ce monde du logement immigré, c'est de réussir à faire toute une série de tours de passe-passe financiers, de passe-passe pour les populations. Hein, on déplace les populations de manière assez efficace dans des segments du parc. Et aussi, on déplace les fonds qui sont destinés à ces populations en les utilisant pour d'autres affectations. Et donc, la situation délabrée, vous parliez tout à l'heure du foyer du retrait. Bon, le foyer du retrait, c'est une caricature. C'est une ancienne usine qui a été utilisée à des fins de logement coercitif pour des jeunes au départ, et puis qui a été récupérée par des gestionnaires de foyers pour en faire un des bâtiments les plus catastrophiques de Paris, qui loge plus de 1000 personnes alors qu'il y a quelques centaines de chambres. Hein, dans des situations effectivement très difficiles, mais la situation est bloquée. Pour reloger les populations qui occupent ces espaces, il faudrait construire de nouveaux bâtiments et les construire où ? Dans le 20e ? La moitié des foyers de Paris sont déjà construits dans le 20e. Il n'y a pas de foyer dans le 8e arrondissement à Paris. Il n'y a pas de foyer dans le 16e. Les gens y travaillent. Les gens qui vivent au retrait travaillent dans ces arrondissements. Comme surveillant, comme vigile, comme agent de nettoyage, comme agent de ce que vous voulez. Par contre, ils n'y vivent pas. Et 99% des foyers à Paris sont situés dans trois arrondissements, le 19e, le 18e et le 13e arrondissement. Et les maires de ces arrondissements ne veulent pas construire de nouveaux foyers. Ils ont 45% de logement social, ils ont la plupart des foyers. Ils veulent qu'on aille construire des foyers ailleurs. Et c'est pour ça que ces situations sont très difficilement solutionnables, parce que il y a une histoire des investissements, des populations, des élus locaux qui fait que la situation au retrait est quasiment bloquée. Parce qu'on ne sait pas quoi faire des 300, 400, peut-être 500 suroccupants de ce bâtiment.
Alors, comme d'habitude, sur la fin de nos émissions, on va extrêmement vite et on aborde tous les sujets extrêmement vite. Et donc là, il y a eu une évolution quand même assez radicale de la population des foyers depuis initialement les travailleurs algériens, puis les travailleurs maghrébins, puis les travailleurs qui étaient issus des anciennes colonies de la France. Aujourd'hui, on parle énormément du phénomène de vieillissement en fait de la population des foyers. Qui habite aujourd'hui dans les foyers, dans les anciens foyers de travailleurs migrants ? Est-ce qu'on peut toujours parler de foyers de travailleurs actuellement ?
Il y a moins d'un usager sur deux qui est travailleur dans un foyer en France actuellement. C'est à la fois peu et beaucoup. C'est peu parce que le phénomène de substitution des populations est à l'origine même des foyers. Un foyer, ça sert à substituer des populations, à en faire passer l'une à la place de l'autre. C'est un endroit qui fait, je l'ai dit tout à l'heure, toujours des étrangers, des nouveaux arrivants. Ça fait des étrangers, toujours des étrangers. Alors même que ces étrangers sont installés depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, quand on habite dans un foyer travailleur, on est toujours perçu comme venant d'arriver, descendant du bateau. C'est le problème central. C'est un phénomène de substitution, fût-il symbolique, c'est un phénomène de substitution. Dans les foyers, le phénomène démographique majeur depuis non pas 5 ans, non pas 10 ans, mais 25 ou 30 ans, c'est le massif mouvement de vieillissement de la population. Ces populations qui étaient les plus fragiles se sont sédentarisées dans les foyers et on vieillit comme le reste de la population, mais le problème particulier des foyers, c'est qu'une fois que vous avez les populations installées là, vous retrouvez avec près de 40, voire 50%, voire beaucoup plus dans certains foyers les plus anciens, de populations âgées ou très âgées, avec une particularité de ces usagers des foyers. C'est qu'un ouvrier spécialisé qui a travaillé pendant 30 ou 40 ans, à 56 ans, il ressemble à une vieille Française de 80 ans. Il a les mêmes problèmes ostéo-articulaires, il a les mêmes problèmes de dentition, il a plusieurs cancers qui sommeillent. Il est dans un état très avancé de fatigue, de dépression, quelquefois, parce qu'il a vécu dans l'isolement psychique, dans l'isolement sexuel, dans l'isolement familial, sans droit politique. C'est peut-être le plus grave. C'est ce qui est le plus difficile pour ces populations. C'est qu'à la différence des Français, ils n'ont même pas la possibilité d'utiliser leurs droits politiques pleiniers. Ils ne peuvent pas voter. Ils ne participent pas à la vie de la société. Ils ne sont pas, comme les Français âgés, multi-adhérents dans les associations. Ils ne participent pas aux réseaux locaux. Ils sont obligés de se débrouiller, de se débrouiller avec la solidarité du foyer, avec la solidarité du quartier, par exemple. Ils ont ici et là quelques bars qui les accueillent, parce que le racisme continue à peser pour ces populations, parce que le racisme se rencontre non seulement dans la ville, mais dans les systèmes de soins, dans les systèmes administratifs. Et ce racisme continue, qui les a touchés, dans le monde du logement, dans le monde de l'usine, dans le monde de la ville, etc., etc., est quelque chose de très fatigant. C'est très fatigant d'être discriminé 24 heures sur 24 pendant plusieurs dizaines d'années. Ce qui fait que le problème numéro un de ces gestionnaires de foyers, c'est comment faire pour apparaître, comme dans le renouveau, c'est le mot qu'utilise la Sonacotra actuellement, alors même que la grande majorité de sa population est toujours la même. Il n'y a aucun renouveau dans ces foyers. Il y a surtout un phénomène de transformation sur place de la population qui devient vieille. C'est le phénomène majeur.
Bon, on n'aura pas du tout le temps on n'a pas eu le temps de parler des attaques de l'extrême droite contre les foyers, de l'importance du mouvement de 75-80 dans la naissance du mouvement des sans-papiers en France, ou bien de la fonction apotropaïque comme l'aurait voulu Guillaume. Mais on va te laisser une minute pour nous parler du fameux changement de nom et donc du fameux renouveau. Tu nous as fait une analyse sémantique tout à l'heure hors antenne. Est-ce que tu pourrais la refaire sur l'antenne, nom de la Sonacotra qu'on n'a pas prononcé jusqu'à maintenant?
Ça me permet de répondre à la question sur la fonction apotropaïque. L'apotropée, c'est une brebis qui est en général blanche et qui se différencie du bouc qui est noir. Le bouc n'a rien demandé. Le bouc émissaire n'a rien demandé et prend la colère populaire ou divine à sa charge. La brebis apotropée est une brebis qui, elle, demande à ce qu'elle soit, à ce qu'elle attire sur elle la colère de la collectivité ou de la divinité pour éviter que cette colère s'abatte sur le plus grand nombre. Je pense que le changement de nom de la Sonacotra participe de cette idée. La Sonacotra, c'est une institution qui a pour but de faire disparaître, de rendre invisible, de scotomiser, c'est le mot de la psychanalyse, de scotomiser des populations qui ne doivent pas être visibles dans l'espace public. Ce jeu de substitution, substitution spatiale, substitution financière, sociale, politique, on pourrait multiplier les exemples, est un jeu qui permet de ne rendre que rarement visibles ces populations. La Sonacotra sait particulièrement bien rendre invisibles les populations. Le changement de nom, c'est un serpent de mer qui a fini par apparaître. Finalement, la Sonacotra a réussi à changer de nom parce que les dirigeants de cette entreprise considèrent depuis pour plus de 20 ans, depuis les grèves de résidents, que le nom pose un problème de respectabilité, que le nom pose des problèmes dans la construction de nouveaux foyers ou l'obtention de nouveaux prêts. Et c'est ce changement de nom va permettre de faire disparaître, finalement, non seulement la Sonacotra, mais surtout les populations qui vivent à l'intérieur des foyers.
Voilà, tu auras réussi à ne pas le prononcer quand même dans cette présentation du nouveau nom, donc on ne le dira pas, on tiendra le pari jusqu'au bout. Donc c'était On est super à la bourre, c'était Marc Bernardo. Si vous voulez lire davantage, il y a pas mal de choses sur Internet, des articles assez passionnants, donc vous tapez juste Marc Bernardo dans Google, vous allez tomber dessus. Il fera paraître en 2007 l'archipel des foyers, sociologie historique de la Sonacotra, 1956-2006. À l'Harmattan, donc voilà, à surveiller. Il est co-auteur dans un bouquin dont on va parler, j'espère, la semaine prochaine, Le retour des camps, qui est coordonné par Jérôme Valluy, Olivier Grandmaison et je ne sais plus le troisième. Voilà. Bon, voilà, il faut qu'on rende l'antenne assez vite, donc voilà, lance le...
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission faite avec la bouche, avec les doigts, dans un bâtiment tellement dégradé qu'il semble avoir été géré depuis des années par la Sonacotra. Alors ce soir, pour tenir les murs et colmater les fissures, il y avait autour des micros Guillaume Yom, grâce à qui vous savez que Lumbenstedt est au Danemark. Il y avait également Juliette qui a beaucoup bafouillé ce soir. Alors il fallait comprendre non pas démonination mais dénomination. Il fallait comprendre non pas Lionel Slotteru mais Lionel Stoleru et non pas Sonacotra mais Adoma. Il y avait aussi Alexandrine, et puis ce soir, la cinquième colonne de la sociologie française était à nos côtés en la personne de Séverin. Et puis, un doigt sur la console, un autre dans le goulot, la membre fondatrice de l'association Bière et Table de Mixage, c'était Juliette. On vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne avec Claudia, puisque ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.